Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, toujours décalés, différents, pas pareils, penseurs décompensés et pensées complexes. Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'onde très curieuse de ce lundi 17 février. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de participer à la troisième émission spéciale avec les rédacteurs de l'Écho de la Réhab, ce collectif de soignés et de soignants de la psychiatrie, né il y a 14 ans. Au sein du service de réhabilitation psychosociale de l'hôpital Sainte-Marie de Privas et qui se retrouve chaque semaine, deux fois par semaine, les mardis et les jeudis, autour d'un atelier d'écriture pour transformer le monde au tamis de l'imaginaire et de la réflexion et transformer l'écrit en poésie. Et pour cette troisième émission mensuelle, alors il n'y en a pas eu en janvier, mais la semaine dernière, vous avez eu la rediffusion de l'émission de décembre, pour ne pas perdre le fil. Donc pour cette troisième émission de la série, on va continuer d'explorer ce que la maladie fait à l'identité dans un processus de création. Et aujourd'hui, en particulier, on va aborder la reconstruction après le traumatisme que représente la décompensation psychique qui amène la personne à être hospitalisée. Cette reconstruction qui met en mouvement, qui génère un processus de réinvention de soi-même, de création et de découverte. Bref, il sera toujours question de création comme une nécessité vitale. C'est aussi l'occasion pour nous de parler un peu plus du journal, du magnifique opuscule L'Écho de la Réhab que vous avez amené, puisque le numéro 31 vient de paraître, intitulé « La langue en un mot ». Et il est magnifique, comme toujours, on va en parler. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus, d'avoir franchi le col de l'escriné. Alors, tous les quatre, je vous présente d'un mot, et puis on vous présentera ensuite Agnès, Jean, bonjour.
Bonjour.
Rama.
Bonjour.
Et Karine.
Bonjour.
Eh ben alors, on y va, on va faire un petit tour de table, si vous voulez bien, pour se présenter chacun et voir aussi quelles sont vos relations avec l'Écho de la Réhab. Karine, allez, on prend dans l'autre sens.
Ok. Alors, moi, je suis à l'Écho de la Réhab depuis un peu plus d'un an. Mmh. À la sortie de mon hospitalisation, la psychiatre m'avait dit « tiens, il y a un journal, ça pourrait peut-être vous intéresser », mais elle ne savait pas que j'adorais écrire. Donc du coup, j'ai vu une belle opportunité d'y aller, en fait, et depuis, j'y vais tout le temps, et voilà, ça m'apporte beaucoup de choses, plus qu'un atelier d'écriture, c'est vraiment un atelier où on est libre, on n'a pas de masque, on est nous-mêmes, et on peut vraiment échanger sur toutes sortes de sujets, et vraiment, c'est quelque chose de fort quand on y va.
Mmh. Voilà. Écriture, et là tu le montres, puisque c'est toi qui as fait les peintures.
Non, juste
là, ouais. D'accord. Peinture aussi.
Oui, peinture.
Rama, toi.
Oui, alors moi, ça fait 2 mois que je suis à l'Écho de la Réhab, donc suite à une période de rétablissement d'à peu près une dizaine d'années, donc depuis à peu près 2010. Je me suis intéressé à la pérédance et de fait, je suis allé à une conférence à l'hôpital de Privas sur le sujet. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait un journal qui était fait 2 jours par semaine dans ce cadre-là aussi.
Et la pérédance, est-ce que tu peux rappeler aux auditrices, aux auditeurs ce que c'est ?
Alors, j'ai découvert il n'y a pas longtemps aussi, alors je découvre petit à petit.
C'est un processus, ouais. Découvrons ensemble. Qu'est-ce que tu as découvert sur la pérédance ?
Alors la pérédance, j'ai découvert que c'était aider ses pairs, donc aider les personnes qui ont traversé un peu les mêmes difficultés. Mm-hmm. Voilà, du coup, le journal de la Réhab, ça permet de côtoyer des personnes qui ont ce même genre de problème et de voir ensemble comment se guérir, avancer.
Se rétablir, avancer. Mmh. Merci Rama. Et toi Jean ?
Alors moi ça fait maintenant 6 mois que je participe à l'Écho de la Réhab et toujours en cours de rétablissement quelque part d'un épisode, on va dire, de burn-out. Et j'y trouve une parole très souvent profonde et humaine.
Mmh. Voilà. T'étais venu, alors c'est comme tu le sens, mais t'étais venu avec un, un petit texte, justement pour te présenter aussi ou présenter les choses. Est-ce que tu veux le lire maintenant ou plus tard?
Oui, ça peut être une façon de présenter effectivement la situation. Il y a dans le passage par la maladie un aller sans retour, celui du temps qui passe, en altérant le corps, les actions et l'esprit, pouvant laisser un grand vide existentiel, une sidération psychique doublée d'une amnésie assez profonde. Dans ce cas, c'est un défaut d'identité qu'il faut faire face, non pas à une crise identitaire au sens où des choix cruciaux seraient à faire pour se redéfinir, non, c'est une recherche d'ancrage identitaire au sens personnel et social qu'il faut effectuer. Le problème est que c'est l'esprit lui-même qui fait défaut, malgré tous les efforts de rationalité et de lucidité, et qu'il faut maintenir l'envie de vivre à partir de presque rien. Il faut retrouver la parole avec soi-même, un monologue intérieur qui se raconte la journée écoulée avec les sensations éprouvées. Il faut réapprendre à marcher avec son esprit et combler au mieux le vide affectif et intellectuel généré par l'épisode de la maladie. Dans ce contexte, la parole partagée est d'un grand secours, car elle peut renforcer la reconstruction de l'identité personnelle par l'identité sociale. Elle permet d'objectiver une vérité en respectant la part d'ombre et de lumière de chaque personnalité. La parole partagée est aussi l'occasion de faire un retour sur le passé pour y développer un narratif, donc une histoire, dans laquelle on s'inscrit parfois de façon suffisamment valorisante pour contourner l'écueil d'un négativisme post-critique inévitable. La parole, c'est aussi la planche d'appel de l'imaginaire permettant d'ouvrir d'autres perspectives, mais aussi d'autres façons de penser et de voir les choses. Aussi, il y a dans la parole le support d'une humanité par sa bienveillance et sa pertinence, ce qui permet d'atténuer les souffrances affectives liées à l'isolement psychique. Quant à l'apport intellectuel de la parole, il est aussi fondamental, car il permet de se sentir compris, ce qui est rassurant, et renforce la reconstruction identitaire. Bien sûr que dans tout cela, la parole intérieure et le jugement que l'on exerce sur soi sont déterminants, et il n'est pas simple de rester objectif sur son propre état. Il faut donc avoir une certaine tolérance et amour de soi pour ne pas crouler sous l'autocritique. Le passage par la maladie est un accident corps et âme qui peut affecter l'esprit au point que l'on ne puisse plus imaginer sa propre existence présente et à venir. Aussi, l'énoncé « je pense donc je suis » de Descartes peut-il être un point d'ancrage pour une réflexion à la recherche de soi-même, en quelque sorte une redécouverte de son propre esprit.
Merci beaucoup Jean, c'est très, très riche. On va pouvoir rebondir dessus. Juste avant de le faire, Agnès, pour celles et ceux qui ne t'ont pas encore entendu.
Bonjour. Voilà, je me présente rapidement. J'étais venue à la première émission, donc c'était en novembre. Voilà. Et voilà, donc je travaille à l'hôpital Sainte-Marie comme psychologue, mais je participe à l'écho de la réhab depuis 14 ans, effectivement, depuis le démarrage. Et j'y vais essentiellement parce que moi aussi, ça m'apporte beaucoup et j'apprends à chaque fois. Et je vois le monde différemment par, effectivement, les propositions que les uns et les autres peuvent faire. Voilà, donc c'est très riche pour chacun d'entre nous, je crois.
On parlait, c'est vous qui collectivement avez choisi de parler justement de la réinvention de soi, la nécessité en fait de se recréer après un épisode, après l'épisode de la maladie. Ce que toi tu dis, Jean, c'est intéressant, tu insistes vraiment et tu proposes un point d'ancrage qui est le cogito de Descartes, tout simplement. Pour toi, te réinventer, c'est par l'esprit, en fait. C'est renouer avec l'esprit, ça, c'est un point fixe sur lequel tu vas pouvoir te rebâtir. C'est comme ça que tu l'entends ?
En tout cas, c'est la situation extrême dans laquelle je me suis trouvé, de faire face à un vide après une période malade de, pathologique, j'ai envie de dire, à l'arrêt de celle-ci, de me retrouver face à un vide, justement, l'absence. Et en fait, de faire face à ce que l'on nomme les signes négatifs, en fait, de la maladie. C'est-à-dire qu'il y a les symptômes positifs, qui sont par exemple un délire. Et puis, il y a les symptômes négatifs, qui sont ensuite des signes plutôt déficitaires, qui peuvent être une dépression ou une forme de régression par rapport à la situation antérieure. J'ai envie de dire, c'est comme si on vivait l'empreinte de l'épisode qui s'est déroulé. Et cette empreinte laisse effectivement, à la fois d'un point de vue psychique, mais pas que, d'un point de vue cognitif aussi, des traces, une absence. Et c'est ce caractère-là, justement, de l'altération cognitive qui m'a fait me tourner vers, finalement, les choses de l'esprit. Cogito ergo sum. Qu'est-ce que ça veut dire, finalement ? Et même si au début et toujours maintenant je ne comprenais pas forcément tous les tenants et les aboutissants de ce que je lisais, ça a été une piste pour retrouver un peu effectivement l'identité personnelle.
Mais une identité qui a évolué, c'est-à-dire c'est retrouver, mais c'est pas la retrouver, c'est en imaginer une autre. Enfin, est-ce que tu retrouves l'identité, est-ce que tu retrouves celui que tu étais avant, ou est-ce que ça n'a même pas de sens ? Tu es différent, tu...
Mais le fait de m'intéresser à des valeurs qui sont censées être universelles, comme la philosophie, me permet d'établir quand même une certaine continuité entre ce que j'ai été et ce que je suis, et le fait que je ne vienne pas de rien. Et puisque le but est de lutter contre le rien, justement, ça a été une façon de combler un vide, mais de retrouver quand même les racines de mon identité et de prendre conscience qu'il faut la poursuivre avec ce que j'ai maintenant, effectivement.
J'aimerais vous entendre, Karine et Rama. Karine, peut-être, comment est-ce que ça fait écho, comment ça fait écho, ce que dit Jean, et pour toi, la réinvention, le chemin comme ça de recherche pour retrouver ou pour trouver qui tu es, quelle forme ça a pris ?
Moi, c'est plus l'art. En fait, je me suis mise à... Enfin, on m'a proposé un atelier de peinture, enfin de dessin. Et en fait, j'y suis un peu allée à reculons au départ parce que j'avais l'impression de ne pas savoir dessiner. Et on m'a dit, mais tout le monde sait dessiner à sa façon. Donc j'ai commencé à m'y intéresser. Et maintenant, je fais deux fois par semaine du dessin ou de la peinture. Et j'aime beaucoup ça. En plus, j'ai des bons retours. On a fait un mois en folie, donc c'était au mois de février-mars. Non, n'importe quoi,
janvier. On en a parlé justement la semaine dernière dans la rediffusion de l'Écho de la Réhab.
Donc du coup, oui, on nous a exposé un petit peu. Ils ont choisi, le commissaire de l'expo a choisi quelques œuvres que nous avions faites. Et il se trouve que on m'a demandé si je voulais la vendre carrément. Donc du coup, c'est hyper valorisant. Et puis ça donne encore plus confiance en soi. Et c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé lorsque j'avais ma vie d'avant, quoi. Quand je travaillais, j'avais pas le temps de m'intéresser plus que ça à l'art. J'aimais beaucoup la photo, mais c'est autre chose, c'est une autre sorte d'art. Et là, il a fallu que je retrouve des activités pour me reconstruire. Et voilà, je suis tombée dans la peinture, c'est le cas de le dire. Et du coup, je me suis réinventée plutôt à travers l'art, quoi, voilà.
Mmh. Et toi, Rama ?
Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir un très bon accompagnement familial au début, parce que c'était vers 17-18 ans mes premières crises, donc pendant mes études, que j'ai dû arrêter de ce fait. Et donc je me suis retrouvée à devoir revivre avec ma famille... tous les jours pendant plusieurs années. Et avec les crises, il y a eu des périodes d'hospitalisation et après des périodes de convalescence ont été faites avec eux. Et du coup, ils étaient, on peut dire, en première ligne pour m'aider. Mmh. Et après, vers l'âge de 23 ans, j'ai recommencé à trouver de l'autonomie en prenant mon premier chez moi. Et après, ça a été plutôt bien. Beaucoup de sport, quand même, de marche, de vélo aussi. Ça me permet d'extérioriser.
Mmh. Agnès, est-ce que ce qu'on vient d'entendre, ça, c'est des choses que tu entends aussi par ailleurs? Est-ce qu'il y a d'autres expériences comme ça pour toi marquantes?
Tu me prends un peu de cours. Je vais essayer de réfléchir rapidement.
Tu peux dire non, on y revient plus tard.
Oui, moi, ouais, peut-être qu'on va attendre parce que là, je n'ai pas trop d'autres choses comme ça, enfin, d'exemples. Mais c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé au journal de cette question-là. Et en fait, de parler du traumatisme, alors pas celui qui est en amont et qui serait à l'origine d'une manifestation, voilà, d'une souffrance psychique, voilà, qui vient nous déborder. Bon, ça a déjà été exploré maintes et maintes fois, puis on en parle énormément actuellement aussi. Mais c'était plutôt de dire qu'effectivement, quand on est débordé par la souffrance psychique, quand cette souffrance-là fait maladie, et qu'elle nous coupe de notre quotidien, de notre vie, et que du coup, ça vient interrompre, en fait, le cours de sa vie. Eh bien, ça, on pourrait dire que c'est un tsunami. Peut-être qu'on peut dire que c'est un traumatisme. Et qu'à partir de là, il va falloir trouver quelque chose, et chacun trouve. Voilà, Jean parlait de ce qui est important pour lui, en fait, c'était... Voilà, que la pensée, elle se met à refonctionner, et à retrouver ce plaisir-là. Karine, qui parle de l'art... Rama, bon, tu parles de se mettre en route autrement. Enfin bon, voilà, il y a tout ça et chacun en fait. Alors j'ai pas d'autres situations comme ça. Puis je pense que ouais, les gens qui sont là peuvent vraiment dire des choses importantes.
Mais par contre, excusez-moi. Par contre, moi, ce que je voudrais vraiment appuyer là-dessus, c'est que même si on est au fond du trou, il faut surtout pas lâcher parce qu'à un moment donné, il y a une petite étincelle qui va arriver et il faut la saisir et après ne plus la lâcher et essayer de rebondir et de remonter à la surface parce que, voilà, même si on vit un tsunami, à l'après, ben, il y a la tempête et après, il y a le calme qui revient. Et voilà, il faut garder espoir, en fait, voilà.
Rama, tu hoches la tête.
Ouais. C'est vrai qu'il y a eu des périodes où on a l'impression qu'il n'y aura pas de bout de tunnel, comment dire, pas d'issue. Et en fait, eh ben, on fait bien d'attendre, quitte à ne rien faire, vraiment plus rien du tout, parce que de toute façon, ce n'est pas possible de faire autre chose. Et ça finit toujours par rebondir. On parle de rebondissement.
Ah oui, on peut être surpris par les capacités insoupçonnées de l'esprit. En fait, de voir à quel point l'esprit a des ressources inépuisables en réalité. Ne serait-ce que pour tenir, déjà. C'est-à-dire que tenir face au vide, c'est inventer une journée tous les jours, quoi. Pas avoir de perspective autre que le lendemain et encore. Et cela en dehors de tout délire ou de toute perte de conscience. Et en définitive, l'esprit, oui, a des réserves insoupçonnées de vie.
Et l'imaginaire aussi, mais ça fait partie de l'esprit aussi.
Et ben, on va entendre justement un imaginaire, celui de Pink Floyd. The Wall.
Certain teachers who would hurt the children anyway.
J'entendais donc Pink Floyd avec un morceau de The Wall, Another Brick in the Wall, en 79 déjà, pour aussi parler justement de... C'est aussi une métaphore de l'enfermement psychique et la schizophrénie. Et tu es venu, Rama, avec un texte de Pierre, oui. Justement sur le sujet.
Schizophrénie. Nuit, la lune brille et les premiers oiseaux chantent. Bientôt disparaîtront les premiers fantômes qui la hantent. Soupir. Le blues se transforme doucement en dépression matinale. Tellement de détresse dans un esprit marginal. Angoisse. Respiration allaitante d'une raison oppressée. Ressenti glauque, mystique, panique, souffle saccadé. Terreur. Elle envahit désormais tout ton esprit et ton corps. Fourbe impression de non-noirceur de mort. Be careful.
Merci. Merci Rama. Est-ce que ça fait... Comment vous recevez ce texte? Je ne sais pas si certains veulent prendre la parole.
Ben, quand il parle de terreur, c'est vrai que quand on est vraiment mal, on est vraiment dans le noir, quoi. Tout est noir pour nous et ben, voilà, ça fait écho à ce niveau-là, moi.
Oui, oui, la terreur, pareil.
Pendant que tu parles, j'ai sous les yeux donc l'écho de la réhable 31, la langue avec comme couverture quand même quelque chose de très coloré. Donc là on est au-delà de la terreur. Vous pouvez parler un petit peu de celui-ci. D'ailleurs, est-ce qu'on retrouve le texte de Pierre?
Oui, tout à fait.
Est-ce que tu peux nous, enfin, ou est-ce que quelqu'un peut nous présenter cet écho de la réhable?
Il y avait le texte d'introduction qui pourrait traduire un petit peu justement ce qu'on trouve.
C'est vrai.
Cher lecteur, toi qui as tout lu, tout vu, tout entendu, marque le pas tout de même devant la couverture du journal La Langue. Car c'est un florilège d'idées et de paroles qui secoue l'âme, pour ne lui laisser qu'un temps de respiration entre aimer, créer, donner, jouer, se perdre dans les considérations de l'existence. Avec sincérité, chacun s'y raconte brillamment dans un langage poétique et nouveau qui réinvente, tel un manifeste, l'expression du bien et du mal en nous. Autant de textes qui déclinent l'envie de vivre au quotidien et dans l'absolu, tout en restituant une part de rêve et de grande lucidité. Pour ceux qui cherchent l'émotion, voire le frisson, il y a pour vous des textes poignants par leur désespoir et saisissants par l'ampleur du regard sur le monde. Pour ceux qui cherchent la raison, il y a des textes marqués du sceau du bon sens où la justesse l'emporte sur le désordre annoncé. C'est aussi l'expression de sentiments profonds sur l'identité même de ceux dont le chemin sort des sentiers battus, nous faisant redécouvrir l'âme humaine avec son lot de paradoxes et de contradictions. C'est entre espoir annoncé et une envie de laisser faire que navigue ce journal comme un antidote à la morosité par la transcendance de la création artistique. En nous offrant cette prose et ces vers, les auteurs interrogent notre propre capacité à créer du sens là où le sens n'est plus, et nous poussent à générer un discours sur la vie qui transcende toute apparence.
Merci beaucoup, Jean. Tu as lu donc le texte d'introduction de l'écho de la réhab. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Si ce n'est d'aller lire cet écho de la réhab, vous le procurez, alors on peut le trouver à Fréquence 7. Il est disponible ici dans nos locaux, donc si ça vous intéresse, venez le chercher. Où est-il disponible ailleurs? Agnès. À la demande, peut-être ?
Oui, plutôt à la demande. Il faudrait appeler le secrétariat de réhabilitation à l'hôpital Sainte-Marie.
De Privas.
De Privas, voilà. Ils nous feront passer le message et avec vos coordonnées, et puis on peut vous joindre et vous envoyer un numéro.
Merci. Et ça, c'est le fruit, donc, c'est des textes qui ont été choisis parmi l'immense production de textes en vers, en prose, que vous réalisez pendant ces ateliers. On peut peut-être aussi en écouter un autre, celui de Carole, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est très productive, elle aussi. On écoute son texte.
Du mal à le dire. La difficulté est aussi importante dans celui qui tente de s'exprimer pour utiliser les mots adéquats afin de se faire comprendre. En effet, le mal à le dire aboutit sur un mal entendu, interprété par le récepteur alors, déviant sur autre chose. Du mal à le dire contient peut-être une note d'autisme, même s'il n'a jamais été diagnostiqué, résultat, hermétisme et incompréhension. Il peut y avoir du mal à le dire aussi lorsque le ou les mots à utiliser génèrent un blocage chez le narrateur et les mots absents se font nommer d'office par le récepteur. Le mal à le dire se situe encore dans l'habitude de l'isolement et la communication par les pensées avec des êtres, des choses, des éléments. Parfois, en s'exprimant oralement, le récepteur peut comprendre l'inverse ou quelque chose qui n'a pas été dit, d'où l'impréhension de l'autre. Carole.
Merci Carole. Un vaste sujet, je pense qu'il nous touche tous plus ou moins, cette difficulté de communiquer et en même temps ce besoin des autres pour faire exister sa propre parole et puis pour exister ces gens, je pense. Tu parlais de l'identité propre, mais qui passe aussi par une identité, par l'identité sociale.
Ben, elles sont volontiers complémentaires. Et la première sera ce que soi-même on raconte sur de sa propre vie, à partir de son propre nom d'ailleurs, jusqu'à et la façon dont on va se voir. Mais dans certaines situations, c'est insuffisant pour avancer. Et on a besoin de la définition un peu sociale de ce que l'on est. Et même s'il y a une part de subjectivité dans tout cela, ça contribue à la restauration d'une identité en soi-même.
Merci beaucoup. Le temps file, sauf si vous voulez dire un dernier mot. Mais sinon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Merci beaucoup à vous tous.
Merci de nous avoir reçus. Merci
de nous ouvrir une fenêtre, une porte, même une grande, grande porte là-dessus sur toutes ces questions et sur d'autres mondes. Merci encore, cher rédacteur de l'Écho de la Réhab. C'est bientôt la fin de cette émission, mais avant, on écoute la Minute Asso.
La Minute Asso.
Et dans la Minute Asso de ce lundi, nous recevons Isabelle Lenuse, qui est responsable du pôle ressources, économie sociale et solidaire de AMSUD. Bonjour.
Bonjour.
Tu viens nous parler aujourd'hui d'une formation pour les bénévoles associatifs organisée par votre structure, par ta structure AMSUD, le 21 février, sur la thématique « Encourager la transition écologique et sociale dans votre association ». Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, donc l'idée, voilà, c'est de parler du changement climatique et des conséquences que ça peut avoir sur les structures en général et en particulier pour les associations qui peuvent se traduire, voilà, sur la nécessité, par exemple, d'aménager les activités des associations, voilà, quand il y a une forte canicule, ça peut nécessiter peut-être de décaler certains événements qui sont prévus en plein d'été. Les associations, au même titre que d'autres structures, sont aussi confrontées à la raréfaction des ressources et donc qui peuvent engendrer des augmentations de coûts à différents niveaux pour leur structure, ou encore aussi, du coup, ce changement climatique impose aussi un certain nombre d'évolutions réglementaires, donc qui s'imposent aussi aux associations. On parle de la gestion des déchets pour en prendre un exemple, et aussi une évolution au niveau financier. Puisque dans un certain nombre de financements, et en particulier financements publics, aujourd'hui, il y a un conditionnement à démontrer des démarches en faveur de la transition écologique. Pour prendre des exemples très concrets, le fonds de développement de la vie associative, qui a un financement au fonctionnement global ou à des nouveaux projets pour des associations, donne une priorité aux associations qui démontrent des aménagements en termes de transition environnementale, ou en tout cas la prise en compte de ces enjeux-là dans leur structure. C'est le cas aussi pour les financements européens Leader Ardèche, qui aussi demandent aux associations d'expliquer en quoi la transition est prise en compte dans leurs actions, que ce soit en termes d'adaptation, réutiliser l'existant, valoriser les ressources locales tout en les préservant, ou encore sensibiliser les habitants et les usagers à ces questions-là. Donc de plus en plus, ces questions de transition écologique sont à prendre en compte. Et c'est vrai que du coup, nous, la façon dont on l'aborde, cette transition, on parle des transitions écologiques, mais aussi sociales, puisqu'on se rend compte que ces changements climatiques, ils impactent en particulier les personnes les plus précaires, et c'est souvent des publics touchés par les associations, en fait. Donc c'est important de prendre cette notion de transition de façon assez large, en fait.
Et au sein de cette formation, donc vous allez voir un petit peu tout ce qui existe, un peu tous les cas de figure. Est-ce que vous appuyez sur ce que font déjà des associations, parce qu'il y a déjà des associations qui mettent en place des choses, peut-être même sans le savoir?
Et c'est ça, justement, un des objectifs, c'est de faire aussi déjà un état des lieux. Alors du coup, on a une grille d'analyse autour des actions écologiques et sociales que peuvent mener les associations, et on se rend compte que voilà, quand on en prend connaissance, qu'un certain nombre d'associations sont déjà engagées dans des démarches de transition sans forcément y mettre des mots. Et donc l'idée, c'est de partir bien évidemment de l'existant, et vu qu'on a la chance d'être en collectif, c'est aussi partager un peu les expériences des associations présentes, et aussi d'identifier des pistes peut-être d'action sur des champs sur lesquels on n'est pas forcément allé et qu'on pourrait réfléchir à l'échelle des associations. Donc l'idée, c'est un atelier de 3 heures, hein, c'est d'être assez opérationnel en fait, avec un certain nombre d'outils, de grilles d'analyse qui permet un petit peu déjà de décrypter l'existant, de voir les pistes et pourquoi pas aller jusqu'à la construction d'un plan d'action. Et donc on outille vraiment les associations sur ces différentes démarches en fait.
Donc cette formation, encourager la transition écologique et sociale dans votre association, ça aura lieu donc le 21 février à Âmes Sud à Joyeuse, c'est ça, en matinée, 9h30, 12h30, on s'inscrit auprès d'Âmes Sud, donc le lien est sur le site internet amesud.fr, vous pouvez encore vous inscrire, n'hésitez pas. Un dernier mot ?
Non, voilà, tout est dit. C'est un atelier en fait de 3 heures qui est financé par le fonds de développement de la vie associative sur la partie formation des bénévoles, et c'est donc gratuit pour les participants, car prise en charge par ailleurs.
Très bien, c'était un bon dernier mot. Merci Isabelle.
Merci.
La minute asso.
C'était la Minute Asso et c'est la fin de cette onde curieuse. Merci beaucoup Sylvain pour la réalisation de cette émission. Restez à l'écoute de Fréquence 7 puisque les programmes riches et intéressants continuent. À 13h, Haïku tout court. À 15h, c'est le Telex. À 16h, l'Imaginoire. À 17h, la rediffusion de cette onde curieuse. À 18h, Solidaire d'abord. À 18h45, Central Park, la nouvelle chronique du parc régional qui nous amène dans les grottes à la recherche des chauves-souris aujourd'hui. À 19h, Tu danses. À 20h, Chez Tonton. Et à 21h, Hexagone Jazz. Hexagone Live. DJ Steph, excuse-moi. Voilà, nous on se retrouve demain pour une onde curieuse spéciale Fréquence 7 et AG de Fréquence 7. Ciao.